Il est 19h, c'est le journal de Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous. Le premier tour de l'élection présidentielle et un taux de participation de 65% à 17h. Il était de 69,4% à la même heure en 2017, selon une première tendance de notre partenaire Ipsos Soprasteria. L'abstention est estimée à 26,5%. Nous serons dans un instant avec Yael Gauss, chef du service politique de France Inter. Nous irons dans les bureaux de vote où il y avait du monde aujourd'hui. Et puis nous verrons comment se prépare cette soirée électorale dans les différents lieux choisis par les candidats pour vivre ce soir et cette nuit d'élection. Une soirée électorale bien sûr à vivre et à suivre sur France Inter. Soirée spéciale que vous animerez, Claire Servageon.
Effectivement, on va vous faire vivre cette soirée présidentielle à partir de 19h20 avec Jérôme Cadet et tous les journalistes du service politique de France Inter qui ont suivi la campagne et qui sont sur le pont ce soir plus que jamais. Yael Gauss, le chef du service politique, sera avec nous, tout comme notre éditorialiste Thomas Legrand. Deux politologues pour nous accompagner également, Céline Braconnier et Rémi Lefebvre. Sans oublier Stéphane Zumsteck de l'Institut Ipsos, notre partenaire, qui pourra vous donner ses estimations tout au long de la soirée. D'abord, celles concernant la participation dont nous parlerons jusqu'à 20h et puis ensuite, bien sûr, les estimations concernant les résultats de ce premier tour. Alors, surtout, restez avec nous pour cette soirée électorale réalisée en partenariat avec Ipsos, Sopra, Steria, France Télévisions, France 24 et les chaînes parlementaires. On se retrouve dans 20 minutes.
À tout à l'heure, dans l'actualité également, 46e jour de guerre en Ukraine et l'armée russe a rasé l'aéroport de Dnipro, une grande ville de l'est de l'Ukraine, lors d'un nouveau bombardement aujourd'hui. Et puis en football, Bordeaux remporte le choc des derniers de la Ligue 1, victoire face à Metz 3-1. La météo pour demain, temps agréable avec une dégradation par l'ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est donc un entre-deux pour ce principal rendez-vous démocratique que constitue l'élection présidentielle. Le taux de participation à 17h est de 65%, en baisse de 4,4% par rapport à 2017. Bonsoir Yael Gauss.
Bonsoir Frédéric.
Chef du service politique de France Inter, participation en baisse par rapport à 2017, mais plus élevée qu'en 2002, de 6,5 points. Et 2002, c'est l'année du record d'abstention au premier tour de la présidentielle.
Oui, si bien qu'on peut faire deux lectures de cette participation molle, mais pas catastrophique. La première lecture, c'est que les Français ne se sont pas démobilisés autant qu'on aurait pu le craindre. La présidentielle reste l'élection reine. Et il faut voir d'où l'on vient. Des municipales coupées en deux en 2020 par la première vague de Covid. Des régionales boudées par deux tiers des électeurs l'an dernier. Record toute élection confondue. Jusqu'à 8 à 9 jeunes sur 10 absents des isoloirs, donc sursaut si l'on regarde un ou deux ans en arrière. Quand on se compare, on se console. Mais pour une présidentielle, on est dans un étiage bas, avec des départements sous-mobilisés à 17h, en particulier la Haute-Corse, 51% de participation seulement, la Seine-Saint-Denis, 51% aussi, mais surtout Paris, 52%. Il faudra regarder précisément qui est resté à la maison, pourquoi et avec quelles conséquences. A contrario, à l'heure du goûter, c'est la Dordogne qui décrochait la médaille du département ayant le plus voté, 75%, devant l'Aveyron et le Gers.
Et puis Gaël, selon une première tendance de notre partenaire Ipsos Soprasteria, le taux d'abstention cette fois est estimé à 26,5%.
Soit quasiment 2 points de moins qu'en 2002. Vous l'avez dit, l'année noire 2002, celle où la participation a été la plus faible de tous les premiers tours de présidentielle. La catastrophe démocratique annoncée devrait donc être évitée. 2022 resterait quand même comme un mauvais cru du point de vue de la mobilisation. Dans les pires premiers tours, on a eu aussi 1969, 22% d'abstention, quasiment autant en 2017. Et de toute évidence, Frédéric, ce soir, quel que soit l'ordre d'arrivée, la question démocratique sera une nouvelle fois posée, car qui peut se satisfaire du fait qu'un électeur sur quatre ce dimanche n'a pas cru bon de se déplacer pour décider de l'avenir de son pays?
Yael Gauss, merci. On va aller voir maintenant dans les bureaux de vote comment s'est déroulée la journée. D'abord à Paris, dans le 18e arrondissement, bureau de vote du square Lamarque. On retrouve en direct Béatrice Duguet. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Les bureaux de vote à Paris ferment à 20h et on vote encore square Lamarque.
Exactement, et on vote plutôt pas mal encore. Il y a des gens dans la file d'attente. En cette période post-Covid, de toute façon, le devoir civique commence par un geste.
préparé pour voter, les mains propres.
Avant cela, il aura donc fallu de la patience dans ces deux bureaux de l'école Lamarque. Pas de souci, Frédéric en avait.
Il fait beau, c'est le dimanche. Et si on n'a pas le temps le dimanche, je me demande bien quand est-ce qu'on a du temps. Mais là, ça va assez vite. Hein. Moi, je pense que ça va pas me prendre plus de 20 minutes. Hein. Je peux consacrer 20 minutes pour ça.
La file des lecteurs est régulière depuis quasiment l'ouverture des bureaux ici. Même avant l'ouverture, une demi-heure avant, il y avait déjà du monde. Victoria Barrigan, la présidente du bureau 36, en tout cas, a juste fait une pause de 10 minutes pour voter elle-même.
On n'a pas arrêté une seconde. Le flot ne désemplit pas depuis 10 heures. Hein. C'est un flot régulier. On a sans cesse des gens. Là, on a quand même. On est presque à 70% de votants. Donc, on est plutôt content que les gens du quartier se soient mobilisés pour venir voter.
Bonjour, madame. À voter. Je vais vous laisser émerger.
Voilà, plus de 70% ici ce soir à trois quarts d'heure maintenant de la fermeture. Et il y a toujours beaucoup d'électeurs en cette fin de journée. Ça n'est pas le cas dans tous les quartiers de Paris. Et puis ici, ça n'est pas si fréquent. Des candidats au dépouillement, il y en a aussi, comme Swain, marocain d'origine.
Je viens dépouiller parce que j'ai eu la nationalité française récemment. Et donc, je veux participer à la démocratie française. C'est assez beau à voir parce que c'est assez rapide et on va tous les gens travaillent ensemble.
Rendez-vous à 20h pour ces bonnes volontés. En une heure, dit Swain, ça devrait être terminé.
Béatrice Duguay, merci. Direction les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais à Noyelles-Godault, où les bureaux de vote viennent de fermer à 19h. On retrouve en direct sur place Jérôme Jadot. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Et le dépouillement à Noyelles-Godault vient de débuter.
Oui, les scrutateurs masqués sont en train de s'installer à quatre par table ici dans la salle polyvalente qui regroupe tous les bureaux de vote de la ville. On a vidé les urnes, on est en train de faire des paquets de 100 bulletins, bulletins qui sont moins nombreux qu'il y a 5 ans, taux de participation de 70,29%. C'est tout de même 7 points de moins qu'il y a 5 ans. Il y a eu beaucoup de monde ce matin, mais l'après-midi ici a été très calme. Louise, 85 ans, elle est venue sous un beau soleil de printemps. Elle n'a manqué aucune élection présidentielle de la 5e République.
Je trouve qu'ils nous en promettent beaucoup. Ils vont nous en donner d'un côté pour nous retirer de l'autre. Mais enfin, il faut y aller parce que, de toute façon, il faut qu'on soit gouverné. J'ai mes idées bien déterminées, donc c'est pas difficile pour moi.
Un choix qui n'était pas évident, en revanche, pour beaucoup d'électeurs que nous avons croisés. Justine, kinésithérapeute de 34 ans, a beaucoup hésité.
C'est plutôt un vote anti, en fait. D'un point de vue programme, il n'y a rien qui me correspond, donc je vais plutôt voter pour ce que je n'ai pas envie. À partir du moment où j'ai voté, j'ai le droit de critiquer le résultat de ce soir.
Un vote par devoir, par conscience citoyenne, c'est souvent ce qu'on a entendu ici auprès des 4000 inscrits de la commune. C'est aussi ce que dit Charles, il est retraité.
Enthousiaste, non, pas vraiment, parce que pour moi, je pense que c'est toujours un peu la même chose. Dans chaque, il y a toujours un petit quelque chose qui est bon. Il y a toujours quelque chose, il faudra en prendre un petit peu à chaque.
Voilà, journée de vote sans énormément d'entrain, vous l'entendez, même si certains responsables municipaux estiment qu'on a limité la casse en termes de participation. Le dépouillement se poursuit, il devrait durer encore une heure ici environ.
Jérôme Jadot en direct de Noyelles-Godault, merci. Les premières estimations dans un peu plus de 50 minutes maintenant sur France Inter. Alors la soirée électorale se prépare également pour les candidats et leurs militants. Les 12 prétendants organisent des soirées électorales toutes à Paris. On va se rendre maintenant dans trois lieux où sont organisées ces soirées. C'est là qu'auront lieu tout à l'heure les bravos, les soupirs ou les pleurs à l'annonce des premières estimations. D'abord La République En Marche, Emmanuel Macron et ses militants vont se retrouver au parc des expositions Porte de Versailles. Sur place, Simon Le Baron. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et on se prépare pour vivre cette soirée.
En tout cas, le décor est en place, Frédéric. Nous tous, le slogan de la campagne inscrit en blanc sur un très grand écran bleu ciel, les drapeaux français et européens installés sur scène, le pupitre évidemment, et beaucoup de journalistes dans ce grand hall d'exposition. Quelques centaines de militants seront là ce soir, mais tout au plus, surtout des représentants de la presse, 700 journalistes et techniciens accrédités venus de 37 pays d'après l'équipe de campagne. Alors en attendant 20h, les pontes de la Macronie sont réunies ici en coulisses pour un comité stratégique. Le président candidat, lui, est à l'Élysée. La seule indication que nous avons sur l'heure à laquelle il prendra la parole, eh bien, c'est ce que nous disent ses proches. Ce sera avant la fin de la soirée électorale de TF1 qui a prévu de diffuser à 21h15 le film Les Visiteurs.
Simon Le Baron, en direct de la Porte de Versailles. Merci. Direction maintenant le Bois de Vincennes et le Parc Floral. C'est là que Marine Le Pen va suivre les résultats à entourer de ses militants. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Vous êtes sur place et là aussi les militants du Rassemblement National sont prêts pour cette soirée électorale.
Oui, dans un décor bucolique vu sur les cerisiers en fleurs, 500 militants sont attendus dans la salle où l'on a dressé d'ores et déjà des pyramides de verre, bouteilles de champagne dans les seaux à glace. Mais pour l'instant, ce sont surtout les près de 400 journalistes accrédités qui s'activent. Caméra tournée vers le pupitre où Marine Le Pen prendra tout à l'heure la parole. La candidate arrivée ici il y a quelques minutes tout juste par une porte dérobée. On a juste aperçu sa sœur Marie-Caroline et sa mère Pierrette. Marine Le Pen, elle s'est retranchée dans un salon du pavillon, fenêtre donnant sur le parc, canapé jaune moutarde, entouré de ses plus proches lieutenants pour analyser à porte fermée les premières remontées de bureaux de vote.
Élodie Forêt en direct du Parc Floral avec Christophe Papon. Merci, on termine notre tour des soirées du premier tour de la présidentielle. On va au Cirque d'hiver, le lieu choisi par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Et là aussi également, on se prépare à vivre à cette soirée. On est à 50 minutes maintenant de l'annonce des premières estimations.
Alors il y a là un écran géant sur le parvis du Cirque d'hiver qui se trouve près de la place de la République à Paris. Des militants qui commencent à s'installer. Alors ça chante ici la chanson des Gilets jaunes. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tout est prévu pour une soirée que tous souhaitent festive. Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore arrivé. Ici essentiellement des journalistes installés dans les écuries somptueuses d'ailleurs du Cirque d'hiver. Les petits plats ont d'ailleurs été mis dans les grands. Tout le monde cherche frénétiquement à décrypter les mines des députés et des proches de l'insoumis. Ils sont d'ailleurs tous présents. Même le rebelle François Ruffin, salué par les militants Ruffin, Premier ministre. Aucune information fiable ici et de toute façon, même si je l'avais, je n'ai pas le droit de vous la communiquer.
Et ben voilà, merci Laurence Perron. En direct du Cirque d'hiver, la soirée électorale à suivre bien sûr sur France Inter, juste après ce journal animé par Claire Servageant et Jérôme Cadet. Soirée électorale à suivre aussi sur franceinter.fr.
France Inter, Frédéric Barrère.
Dans l'actualité ce soir également, la guerre en Ukraine et la bataille annoncée dans l'Est et le Sud qui se précise avec la crainte d'une offensive imminente. L'aéroport de Dnipro, une grande ville de l'Est de l'Ukraine, a de nouveau été bombardé par l'armée russe. L'aéroport est complètement détruit. On ignore s'il y a des victimes. On retrouve en direct de Kiev l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Camille Magnard. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Et cette fois, il ne reste plus rien de l'aéroport.
Oui, c'est vrai qu'il avait déjà été en partie détruit par les premières frappes russes au tout début de l'invasion il y a un mois et demi. Mais là, selon le gouverneur régional de Dnipro, vous l'avez dit, il ne reste plus rien de l'aéroport qui se trouve aux portes du Donbass. On déplore 5 blessés et l'on comprend bien qu'en s'assurant d'annihiler toute possible défense aérienne ukrainienne installée sur cette piste d'aviation, je l'ai dit, aux portes du Donbass, les Russes ont voulu s'ouvrir la voie du ciel en préparation de cette offensive qu'ils devraient lancer de manière imminente sur la région de l'Est ukrainien. Dans cette optique également, les troupes russes continuent de se regrouper autour de la ville d'Izium dans le nord du Donbass, une ville conquise la semaine dernière par l'armée de Vladimir Poutine et c'est donc de là qu'elle devrait lancer l'assaut sur les verrous ukrainiens de la région, les villes de Slaviansk et Kramatorsk à une cinquantaine de kilomètres plus au sud. Côté ukrainien, dans l'entourage de Volodymyr Zelensky, on estime que les Russes n'ont pas plus de 30 à 40 000 hommes massés dans l'Est et l'on se dit prêt à livrer la grande bataille du Donbass, douté par les habitants de la région qui continuent, eux, de se ruer sur les rares corridors d'évacuation de la population civile.
Camille Magnard avec Laurent Macchetti. Et dans ce chaos de la guerre et l'atroce répétition des crimes de guerre, comme à la gare de Kramatorsk ou dans la ville de Boutcha, la procureure générale d'Ukraine annonce qu'à ce jour, plus de 1200 corps ont été découverts dans la région de Kiev, occupée pendant des semaines par les forces russes. La procureure Venediktova indique également que 5600 enquêtes pour crimes de guerre présumées commis par la Russie ont été ouvertes. 500 criminels de guerre russes ont aussi été identifiés, selon elle. On retrouve nos envoyés spéciaux, nos autres envoyés spéciaux en Ukraine, Thibault Lefebvre et Benjamin Thuo. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Frédéric.
Et vous vous êtes rendu dans la ville de Tchernihiv où là aussi des exactions assimilables à des crimes de guerre ont été commis.
Oui, tout à fait visible, hein, avec des façades d'immeubles d'habitation collective déchirées par des bombes de 500 kilos tombées du ciel. Et les infrastructures de Tchernihiv sont en ruine. Câbles électriques, réseau internet, canalisation, rien ne marche.
On vient de prendre de l'eau.
Et il n'y a pas que l'eau qui manque.
J'ai besoin des médicaments, de nourriture. J'ai aussi mon petit-fils de 16 mois. Il n'y a pas de couche.
Dans chaque quartier, des distributions d'aide coordonnées par des volontaires sont organisées dans les files d'attente des personnes âgées comme Nina et quelques rares enfants.
Ceux qui ont pu partir sont partis, mais ceux qui n'avaient pas de voiture ont été obligés de rester là. Ici, vous trouvez maintenant les plus précaires et les retraités.
Tcherniv a perdu les deux tiers de ses habitants. Les autres, les plus pauvres donc, ont subi 5 semaines de bombardements intenses. Il y a près d'un millier de morts.
Thibault Lefebvre avec Benjamin Thuot, merci. Et puis concernant les efforts et la voie diplomatique, le chancelier allemand Nehammer se rendra demain à Moscou. Il y rencontrera bien sûr le président russe Vladimir Poutine. En France, l'accident d'un avion de tourisme a fait 3 morts. L'appareil qui venait de décoller de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor s'est écrasé non loin de la piste de décollage. Maxime Gorieux, France Bleu Armorique.
Il est 11h20 ce matin, l'aéronef est arrivé en bout de piste et doit se poser en urgence. Il finit par s'écraser dans un champ de colza à 200 mètres de la piste. Lorsque les secours arrivent, les 3 personnes à bord sont mortes. Le pilote, âgé de 62 ans, est originaire de Saint-Brieuc, ainsi que 2 passagers, un homme et une femme de 27 ans qui avaient fait la route depuis Pordic. Il s'agirait d'un vol de loisir selon le parquet, mais il est encore trop tôt pour savoir si les 3 victimes se connaissaient. Cet avion de tourisme de l'aéroclub de Saint-Brieuc disposait d'une licence en règle et avait été révisé récemment, ajoute le parquet. Les conditions météorologiques sont jugées compatibles avec le vol. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire par le parquet, l'autre administrative par le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Une autopsie a été requise pour le pilote.
Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Et juste une précision sur la rencontre demain avec Vladimir Poutine. C'est bien le chancelier autrichien Nehammer qui se rend à Moscou pour rencontrer le président russe. Le rugby maintenant avec le tournoi des 6 nations femmes et la belle victoire des Françaises en Écosse 28-8. Et comme pour les hommes, les Françaises visent maintenant le Grand Chelem. Encore 2 matchs contre les Galloises et les Anglaises. La Coupe d'Europe de rugby avec les 8e de finale. Allez, Montpellier a battu les Harlequins 40-26. En revanche, Clermont a perdu face à Leicester, 29-10. Et puis en football, dans le choc des derniers du classement en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont battu Metz, 3-1. Ils ne sont plus les derniers. C'était le match à gagner absolument pour les Bordelais qui se relancent pour le maintien. David Guillon, l'entraîneur de Bordeaux, a tenu à vite se protéger sur le prochain match, mais il apprécie la force de caractère de son équipe. David Guillon avec Arnaud Carré de France Bleu Gironde.
Les 10 dernières minutes de la première mi-temps ont été un petit peu difficile, donc la mi-temps est bien arrivée. Il a fallu ramener un peu de calme, restructurer le bloc équipe. C'est pour ça aussi que les garçons ont été ensuite solides, parce qu'on a gardé notre plan de jeu. Et les garçons ont été solides dans la tête, non seulement pour revenir, mais ensuite pour dépasser notre adversaire. On se fait mener, donc c'est difficile pour mes joueurs. Et là, on a vu un gros caractère de la part de l'ensemble du groupe. Ça nous a permis d'aller chercher une victoire qui me paraît totalement logique.
David Guillon, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
En fin de nuit, de petites gelées vers moins 1 degré sont possibles sur Champagne-Ardenne, la Lorraine et le Dijonais. Ailleurs, les thermomètres sous abri seront positifs et vont largement dépasser les normales en journée avec 18 à 23 degrés prévus dans la moitié nord. Il fera par exemple 18 sur l'Alsace et près de la Manche, 20 à Paris, 21 à Rennes, 22 à Nantes, Nevers et Tours, 23 à Bourges. Dans le quart sud-est, il est prévu 19 à Lyon et à Perpignan, 20 à Marseille et Ajaccio. On atteindra les 27 degrés sur la Bigorre et le Pays Basque, 20 à 23 en général au sud de la Garonne et 22 à La Rochelle et à Limoges, avec toujours beaucoup de soleil en vue dans l'ensemble, sauf du golfe du Lion, contrefort du Massif Central, où l'ambiance sera maussade, avec un vent marin sensible, un autant très turbulent à 100 km à l'heure sur la région toulousaine, le Lauragais et la Montagne Noire, du vent fort également demain sur l'ouest des Pyrénées et de la haute vallée du Rhône au Morvan.
Jean-Michel Golinski de Météo France.